Cette semaine, l'info est sur tous les fronts.
Et les femmes au cœur de nos émissions.
Du 27 mars au 1er avril 2023,
retrouvez nos portraits de femmes sur Radio Cham.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce jeudi, hein, jeudi de la semaine de la presse, toujours au lycée polyvalent. Aujourd'hui, j'aurai la chance d'avoir une co-animatrice, Lily. Bonjour Lily.
Bonjour.
On a la chance d'avoir Florence Fedel, aka Marie Chantal, humoriste, artiste, donc un humour piquant, hein, croustillant, corrosif on va dire. Bonjour Marie-Chantal ou bonjour Florence, comme tu veux.
Marie-Chantal, comme ça, c'est bien.
Donc Marie-Chantal, hein, c'est environ 10 one woman show.
Ou tu peux doubler maintenant.
Ah, 20, d'accord. Donc la patate chaude, Marie-Chantal et les Chantalettes. Marie-Chantal a tué le cochon, donc qui est un petit peu plus connu. Hein.
Gain le 49.3, c'est le dernier de jouer.
T'es un peu dedans hein, quand même, hein, tout de suite. Hein.
Pile poil.
Et ben d'abord, moi j'ai une première question, c'est est-ce que vous avez toujours voulu faire humoriste?
Ah oui, c'est venu assez tôt. J'avais, de mes souvenirs, hein, que je peux pas avoir. Moi, je pense qu'à 8 ans, j'ai demandé ça à ma mère et qui m'a recadré tout de suite en disant si j'avais du talent, ça serait déjà. Et en fait, je me suis rendu compte des années après qu'en fait, ça avait été son souhait. Elle l'a pas réalisé et puis ça a sauté une génération. Vous savez, dans les inconscients, ça passe. Et donc, elle avait un peu voulu museler ça et c'est sorti donc plus violemment à 36 ans. Et voilà, et maintenant, ça fait 24 ans que je fais ce métier.
D'accord, oui, parce que c'est pas commun, du coup, comme parcours de vie et comme métier. Est-ce que vous avez fait un parcours qui a prédéfini, de devenir humoriste finalement?
Non, mais je pense que c'est, voilà, ce que je vous dis, c'est un héritage inconscient. Puis, j'avais quand même, la famille, tout le monde avait beaucoup d'esprit, que ce soit mes deux grands-pères, ma mère, qui était une méridionale, mon père, qui avait un humour ch'ti, du Nord. Et donc, j'ai baigné là-dedans, en même temps, avec pas mal de misogynie. Bah, donc, en fait, je pense que comme je suis allée dans les années 60, on est toujours marqué par sa génération sa décennie de naissance. Et je pense que le cocktail entre les années 68 et cette rébellion contre espèce de misogynie, j'ai pris en fait cette arme qui était un petit peu contre les femmes et moi je l'ai saisie pour en faire finalement mon affirmation de femme, par mes écrits, par mes attitudes, par ma libération de ton, de tout.
Et en parlant de vos écrits et du coup de votre affirmation, comment est-ce que vous écrivez vos textes, que ce soit au début ou aujourd'hui, est-ce que vos méthodes elles ont changé ou est-ce que vous avez gardé le même schéma d'écriture de sketch?
Alors c'est la même méthode qui ne passe pas par l'écrit très curieusement.
Ah oui.
Je répète, j'ai un problème à l'écrire parce que ça va pas assez vite. C'est assez curieux. Donc en fait, je répète chez moi, dans mon salon, ma cuisine, etc. J'invente, je commence, le lendemain je le reprends et puis ça fonctionne par quart d'heure et j'arrive à faire une heure et demie de spectacle.
Et tu l'enregistres ?
Je n'ai rien et la première elle est toujours one shot comme ça. C'est ma prise de risque mais ça correspond à mon tempérament et je demande toujours à quelqu'un de venir le filmer. Et là, comme ça, après, j'ai une trace. Mais la première, elle est sans écrit, sans rien. Et le fait, après que j'ai mes vidéos, il y a des sketchs du début que j'ai quand même oublié. Mais tant pis, je suis pas en train de faire une possession de tout ce que j'ai. C'est un fluide. Mais maintenant, voilà, j'ai mes vidéos. Et c'est comme ça que ça se passe. Le travail oral est quand même très différent de l'écrit. Et moi, je suis très à l'aise dans cet oral que je retiens, j'apprends. Et j'ai le support, justement, puisqu'on parlait des médias. C'est grâce à la technique sur YouTube, je peux avoir à ma disposition mes vidéos.
Combien de prises, si on peut appeler ça, vous faites avant de construire votre spectacle dans son intégralité? Est-ce que vous avez un temps? Est-ce que ça varie en fonction des sujets que vous abordez ou pas?
Ça dépend, mais enfin, en général, la création est assez rapide, c'est-à-dire que je pense que ça mûrit, et puis d'un coup, il y a un besoin de s'exprimer, quelque chose qui vous a choqué, qui vous a interpellé. Et puis après, comme je vis de cet art, j'ai aussi des impératifs de création permanente. Si j'avais un spectacle qui tournait depuis 30-40 ans, je serais frustrée, hein, moi, c'est pas ça. Comme j'ai une proposition avec un public qui me suit, il faut que j'ai une variété que je crée et j'ai la chance d'écrire et de faire assez rapidement. Puis plus j'ai du métier, plus j'ai une force qui est un métier. Donc c'est assez rapide. La création, d'une manière générale, ça peut être très très long ou ça dépend des artistes. Ça ne préjuge pas de la qualité du travail. Hein. Un artiste peut vous pondre quelque chose très très vite. Les chansons, des fois, se font très rapidement. C'est pas un jugement c'est juste une méthode de travail et d'inspiration.
Mais du coup, vous avez commencé à une époque où la femme n'avait pas encore sa place dans les médias et sur la scène publique. Est-ce que au début et aujourd'hui, vous sentez une différence de traitement entre vous, et vos collègues qui peuvent être du sexe opposé?
D'abord, j'ai quand même commencé dans les années 89-90. Bon, c'était quand même un peu plus libéré. Je suis pas comme celle qui était, que vous avez pas connue parce que vous êtes certainement trop jeune, mais Alissa Pritch et Jacqueline Maillan. Les femmes humoristes du départ étaient beaucoup plus, c'est beaucoup plus difficile. Donc maintenant, ça explose. Et déjà, dans les années 90, il y avait quand même Sylvie Joly. Il y avait d'autres artistes comme Anne Romanoff, etc. Donc si vous c'était pas non plus révolutionnaire d'être humoriste dans les années 90. Maintenant, par contre, c'est le contraire. C'est beaucoup plus de femmes. Très, très grosse concurrence qui n'existait pas dans les années 90. Voilà. Alors après, j'ai mon regard critique. J'ai la chance, moi, d'avoir 59 ans et demi. Donc, du coup, je deviens un peu plus marginale. Je suis pas noyée dans cette jeunesse. Ouais. Et donc, ma force, à mon avis, c'est maintenant d'être, en fait, une 68-sarde sur scène à mon âge. Il y a Chantal là-dessous qui fait une carrière extraordinaire. Et c'est une femme qui est plus âgée que moi et qui explose maintenant en One Woman Show. Il y a toujours un aspect marketing, malheureusement. Donc, il faut trouver sa niche. Donc, il y a beaucoup de jeunes femmes. Elles se doivent peut-être un petit peu dans l'ombre alors qu'elles sont très talentueuses. Et moi, j'espère qu'à mon âge, je vais pouvoir être remarquée.
Mais voilà. Du coup, est-ce que vous avez, vous avez certainement su, parce que du coup, vous avez des réseaux sociaux, un site internet. Et à quel moment dans votre carrière c'est apparu, et en tout cas, le besoin d'utiliser ces nouvelles plateformes de médias est venue, et comment vous avez fait pour vous y adapter, parce que vous n'êtes pas née comme moi, je suis née là-dedans, par exemple.
C'est une super question, parce que ça a été si vous voulez, avant je fonctionnais donc toujours par les affiches, parce que un spectacle fonctionne d'abord par un bon visuel et un bon titre, c'est la base. Après, que le spectacle soit bon, c'est mieux, mais ça, c'est la base. Donc il faut qu'effectivement il accroche sur une affiche, dans les médias, dans les radios, etc. Ça, c'est vraiment la base pour l'humour, ou pour n'importe quel type de spectacle. Enfin, pour l'humour, faut vraiment balancer chialer son... Après, l'évolution, effectivement, moi j'avais toujours un rapport avec la presse locale, les gratuits, les radios locales, etc. Et puis est arrivé effectivement les réseaux sociaux, Instagram, etc. Donc ma génération à moi, ça a été avoir un site internet, investir dans un site. J'avoue que c'est encore un apprentissage pour moi, qu'il y a des métiers. Et donc comme moi je suis une compagnie, on fait un peu tout, enfin j'ai à peu près tout fait, si vous voulez. J'ai appris à rédiger un communiqué de presse, j'ai appris tout ça. Mais les médias, j'ai encore beaucoup de boulot à faire et ça me paraît essentiel. Mais je dirais qu'effectivement, ça bascule parce que la presse quotidienne régionale souffre, puisqu'elle a la concurrence des médias. Donc il y a moins de place pour la culture, les annonces des spectacles. Et donc, il faut trouver d'autres sources. Et effectivement, les réseaux, Facebook, etc., il faut absolument passer par là. Et je crois que de toute façon, ça va être peut-être le seul média avec le bouche à oreille qui restera la base pour un spectacle... d'humour, mais évidemment il faut savoir communiquer sur les réseaux. Et par exemple, les gratuits n'existent plus. Avant, ici, on avait un faux magazine qui était directement dans les boîtes aux lettres.
T'as connu ça, Lily, toi, les gratuits comme ça?
Jamais.
Et ouais, c'est
alors
ça,
c'était jamais. Extraordinaire, on avait 250 000 exemplaires d'une ville ou les alentours. C'était extraordinaire. Et alors le principe, c'est que les annonces artistiques sont gracieuses encore, hein. C'est pas commercial, donc c'est une culture d'annoncer. Sauf que voilà, comme il y a moins de pages et moins de gratuits, on a moins notre place, la concurrence est grande, et donc nous on peut être fragilisé par une annonce qui n'est pas faite à temps, etc. Et puis le public se décide du jour au lendemain, parce que l'immédiateté, c'est ce qu'on voit justement sur internet, et on va acheter sa place de spectacle à ce moment-là. Nous on est de plus en plus dans l'incertitude, mais en même temps on maîtrise peut-être plus, si on maîtrise bien les médias, on peut s'affranchir d'autres médias. C'est la loi, chacun essaye de tirer un peu son épingle du jeu pour être visible. Après, passer dans des émissions à Paris, une émission de télévision nationale, ça évidemment, ça vous ouvre un petit passage, c'est énorme.
Du coup, maintenant qu'on a parlé de communication par les médias, quand même, votre métier, il est principalement basé sur la communication verbale face à un public. Et de mon jeune âge, je me demande comment vous faites pour surmonter le trac de jouer devant un public.
traquant, on l'aura toujours. Ça fait partie de la concentration de l'inconscient sur ça. Donc bon, après ça rend malade ou non. Il y a des artistes qui arrêtent parce qu'ils supportent plus quoi. Ils ont effectivement un seuil si vous voulez de oui, il faut avoir une force mentale, hein, c'est clair. En vieillissant, alors moi c'est le contraire. Je l'ai, mais je le gère de mieux en mieux. Alors j'ai perdu ma vésicule biliaire, pour vous dire, hein, dès que j'ai commencé, Mais parce que ça, c'est le stress, hein, c'est la bile. Mais maintenant, je le maîtrise mieux. J'ai des techniques de méditation qui sont formidables. Il y a les outils de sophrologie qui sont développés, qui n'existaient pas il y a 20 ans. Donc j'utilise toutes ces techniques-là, de respiration, etc. Puis j'ai le métier, ben forcément, comme tout artisan, comme tout artiste, au fur et à mesure. Puis on est un peu plus rassuré. Si on a fait marrer les gens pendant 25 ans, on se dit, bon, alors ça n'empêche pas un bide de temps en temps, ça peut arriver. Hein, c'est...
Vous parliez de bide, et est-ce que ça vous est arrivé dans votre carrière, et comment vous avez fait pour gérer comme ça quelque chose que vous n'aviez pas prévu finalement, parce que vous êtes là pour faire rire les gens, et qui n'est pas la réaction attendue? Comment on gère ça?
Eh ben, on gère, il faut avoir une puissance morale, ben, on va jusqu'au bout, malgré tout. Il y en a qui peuvent partir. Moi, j'ai toujours fait la fin de mon numéro. Après, bon, dans les talents dans lesquels je suis après, bon, mon ego en a pris un coup et tout ça, mais bon, si vous voulez globalement s'en remet, puisque soit vous faites ce métier, soit vous l'arrêtez très vite. Hein. Je veux dire, voilà, il n'y a pas de cadeau. Alors si au bout de 25 ans, tu en as pris un ou deux, en général, ça peut arriver quand il y a des conditions techniques qui sont pas au point ou que c'est déplacé, qu'on fait un happening, par exemple, c'est une surprise, et que le public ne saisit pas. Ça m'est arrivé un jour, hein, dans un monde institutionnel.
Donc moi j'ai une petite question à te poser, c'est je sais que t'es quand même engagé sur les droits de la femme, hein. Que c'est pas trop dur de jouer justement des fois des personnages qui sont vraiment à l'opposé?
C'est pas vraiment à l'opposé, hein. Il y a toujours dans tout ce que je fais un discours féministe, rien que par mon attitude, rien que par mes tenues, parce que je peux vous dire que les censures, t'as l'âge, tu peux pas mettre ça, tu peux pas faire marche en tant que cochon, j'arrive avec un cul de cochon, là j'ai dansé, j'avais une robe des années 70, donc je continue toujours. Et dernièrement j'ai caricaturer des personnes âgées et fesses molles et dents dures, c'était marrant. Et en fait, moi je me suis rendu compte que pour certaines qui avaient été obligées à une époque d'avoir la signature de son mari pour travailler, qui n'avaient pas de chéquier, etc., quelque part de nous voir nous dire que on est des féministes alors qu'elles ont subi ça, hein, c'est des fois un peu difficile pour leur ego, et quelquefois elles sont vaches avec les féministes. Mais elle dit, ouais, vous voulez toutes travailler, vous êtes folle, moi j'étais très bien avant. Donc c'était très intéressant de voir que quelque part, pour certaines femmes, c'était blessant de dire qu'elles ont connu ça et que maintenant, nous, on fait que ça comme si c'était acquis et qu'elles étaient des cloches. Eh bien, je leur montre quand même que par leur vacherie, quelque part, elles aussi, elles ont été touchées par cette condition féminine qui était quand même, à l'époque, bien muselée. Donc c'est très intéressant, et de toute façon... C'est pour moi constitutionnel. Enfin, je suis une féministe et souvent j'ai encore des petits aiguillons de gens qui peuvent m'envoyer des petites vacheries. Alors là, ça me fait encore plus plaisir parce que je me dis ça sera mon moteur toute ma vie pour défendre le droit des femmes.
Et vous en recevez beaucoup des critiques comme ça dans votre quotidien de...
Ah, c'est très amusant, mais maintenant j'en souris, hein. C'est des choses idiotes. Je vais animer une soirée et puis ils vont avoir peur. Oui, je préfère que tu fasses du Florence de Marie Chantal. Dans le contrat, c'est marqué Marie Chantal. Donc je suis obligée de ne pas montrer ce que j'allais faire et d'improviser sur scène et dire, ben vous voyez, après quand j'ai le succès, vous voyez, faut pas avoir peur, on a confiance. Ou alors, bon, j'ai une tenue, on me dit, oh, t'es bien colorée. Mais je dis, c'est autre chose qu'on dit à une femme qui va monter sur scène, on lui dit autre chose que des conneries comme ça. Pas, enfin, c'est des petites piques, toi, c'est bête. J'ai eu un truc rigolo, j'ai eu quand même une affiche qui a été censurée par une boulangère, je dirais pas dans quelle ville, parce qu'on va pas l'embêter, parce que j'avais une tenue qui était quand même celle de Lara Croft. Alors, c'est pas mon corps,
hein,
c'était hyper sexy, et ben, elle me l'a refusé, donc c'est un mourir de rire, quoi. Après, bah, c'est vrai, la femme humoriste a des petites piques, des petites choses. J'ai croisé une femme d'un bourgeois.
Attends, je te coupe deux secondes. Toi, qu'est-ce que t'en penses de la fille, justement, que tu vois là?
Non, moi, je suis pas sûre de trouver ça choquant ou quoi que ce soit, dans le sens où, dans l'humour et dans la cause féministe, je pense que représenter toutes les femmes et leur manière d'être et leur manière de penser, leur type d'humour, du coup, aussi, c'est quand même relativement intéressant. Et je pense qu'on devrait pas avoir à parler sur que ce soit le corps des femmes ou sur leur choix dans leur direction artistique ou des choses comme ça. C'est des remarques qu'on ferait pas à un homme torse nu sur une affiche. Donc je vois pas pourquoi on la ferait une femme.
C'est génial ce que tu dis parce que en fait j'en prends plein la gueule moi. Je fais une affiche là, donc c'est le corps de Lara Croft, donc évidemment c'est pas le mien mais c'est une caricature. Je mets juste ma tête dessus. Et quand j'arrive dans la salle de spectacle et que les gens, les organisateurs me disent ah mais c'est elle, la misogynie, prends, elle dit bah oui j'ai pas le corps de l'autre là, mais je prends. Et après bon évidemment ça me fait un aiguillon, c'est-à-dire que sur scène je leur montrais que j'ai encore plus d'humour et de sensualité et que je me fous. Et j'arrive à séduire et à être, et que les femmes sont vachement contentes et les hommes partent aussi, je fais ma chantage le cochon, hein, la cochonne, quoi, voilà, allez, boum. Alors, c'est toujours la subtilité des, est-ce que tu dois être humoriste et supporter tout avec un, ou t'en vas chier? Ou alors, il y a un truc aussi encore plus misogyne. Quand vous êtes une artiste locale, qui fonctionne, hein, qui remplit, alors souvenez-vous du prix. Alors si vous voulez compter chez quelqu'un qui vient de Paris, alors on paye, mais toi, bon allez on vous prend 3 heures, mais vous allez nous le faire pour ça, ah faudrait que vous baissiez votre prix. En quoi, ça fait 24 ans je suis là, c'est comme si c'était une grâce de faire venir un artiste local. Mais enfin, ça serait peut-être l'inverse, non, on a la chance d'avoir. Donc sur les prix, il y a une espèce de mépris. Ouais mais vous êtes trop cher, vous êtes si... Alors je vais vous dire, j'ai des prix de spectacle abordables et j'ai rempli les salles avec un prix d'entrée de 10 euros. Alors je veux dire, tout le monde s'y retrouve. Il y a aussi ce combat de la femme qui ose dire le prix de ses spectacles. Et ça aussi, je crois qu'il y a une grosse différence. Et valoriser, oui, le travail artistique d'une manière générale. C'est difficile de faire comprendre que ça a une valeur parce que vous faites rire, mais c'est un gros travail, je vous l'ai expliqué derrière, une prise de risque. Et j'ai décidé d'en vivre, donc ça mériterait un respect. Faut le mettre de côté, faut pas chauffer. Tu as le résultat, c'est que tu joues, que tu arrives à avoir ton contrat.
Et est-ce que, pour rester dans le thème, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux plus jeunes femmes qui se prennent des réflexions comme ça, qui peuvent apporter du coup atteinte à leur ego? Et c'est pas facile de construire un ego quand on est jeune. Est-ce que vous en auriez un?
Ça, c'est très délicat parce que c'est le choix. Ou on envoie chier, ou on est diplomate. Je dis tant qu'on est jeune, restez naturel, ça fait rien. Si vous avez une vraie vocation, allez, vous, ça passera. Et puis une autre fois, ben, vous composerez un petit peu plus. Mais vous aurez pris aussi l'assurance de votre métier. Moi, j'ai l'assurance de mon métier aussi. Moi, je dirais, crois en toi, vas-y. N'écoute pas ceux qui vont dire c'est difficile d'en vivre, gna 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 gna. Fonce, essaye, c'est le mouvement qui est la vie. Donc tu essayes, tu prends les risques, et en général je trouve, enfin je peux le dire, que si c'est vraiment ta vocation, il y aura toujours une porte ouverte pour toi et tu y arriveras. La sélection est difficile, elle est naturelle, c'est le public qui le fait, mais si tu crois, et vas-y, et il n'y a pas d'études marketing. Par exemple, Coluche, bon, quand il a commencé, c'est un homme, mais enfin, quand il a commencé son style, il n'a pas fait une étude commerciale avant. C'est le public qui juge. Moi, j'ai eu une réflexion très misogyne en disant, à un moment donné, c'est une espèce d'andouille là, qui m'avait dit, tu n'es pas dans l'attente sociétale du public. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel, l'attente sociétale du public? Mais on ne fait pas d'études marketing avant, on se lance. Donc, toutes ces jeunes femmes, tout ce que je peux vous leur dire, c'est que si vous avez ça en vous, allez-y, louez un lieu. Clermont-Ferrand pour ça est un lieu. C'est une lieu formidable parce que tu as toujours des lieux où tu peux t'exprimer, on t'accueille. Et donc faut saisir ces opportunités en province et d'essayer de, ben voilà, j'écris, je fais ma com, c'est ce que j'ai fait, et le public fait le reste. Et puis après, vous êtes vachement plus adroit sur les médias, donc profitez de cette force, vous savez utiliser ces réseaux, et donc allez-y à fond, quoi.
Pour finir, eh ben, on va essayer de parler de tes actualités.
Toujours on marche en tête du cochon. qui tourne en campagne, voilà. Après j'ai Marie Chantal ou la patate chaude, et puis j'ai un spectacle qui s'appelle Marie Chantal dégaine 149.3, qui est très politique, qui est sur la géopolitique, qui est aussi sur l'évolution des droits des femmes, et sur la culture, Blaise Pascal, enfin je fais la culture en province aussi, donc je fais un mélange comme ça, et je suis très fière de ce spectacle 49.3, donc Marie Chantal dégaine 149.3. Et sinon, ben moi je prospecte les comités des fêtes. Ah oui, alors je suis aussi, je fais de la peinture, j'ai exposé dernièrement à la Cigale, et j'ai fait un truc, c'est un bonheur total, j'ai offert un de mes tableaux pour une vente aux enchères dans une soirée qui était faite pour lutter contre le cancer, les soins de support avec l'Oasis des Dômes. C'est pour récolter des fonds pour tout ce qu'ils font, qui accompagne les malades, c'est-à-dire les socio-esthéticiennes, les sophrologues, etc. Et donc j'ai co-animé avec Maître Vassy, qui est un homme qui est un commissaire priseur. Nous avons co-animé la soirée humoristique, et en même temps avec des femmes qui étaient malades et qui ont fait aussi un spectacle. Elles ont été extraordinaires. On a fait ça, et j'ai proposer mon tableau, Et ben c'est la première fois que je suis cotée parce qu'il a été vendu aux enchères et que l'argent est parti pour le cancer, la lutte contre le cancer. J'étais à la Cigale, à Chamalières, pour vous dire. Et puis après, je serai peut-être au Château des Fias en 2024. Et puis je cherche du petit lieu. Et Clermont et Chamalières, Roya, tout ça, c'est des villes où c'est vraiment ouvert pour la culture, accessible, et on a toujours des lieux d'accueil pour toute forme d'art. Et c'est pour ça que je suis très heureuse d'être une humoriste auvergnate et une peintre à l'occasion.
Eh ben écoute, je te remercie en tout cas. N'hésitez pas à aller voir, à la suivre sur les réseaux. Merci Lily pour cette interview extraordinaire.
Hein. Merci beaucoup. Franchement.
Alors mariechantal.org, qui va me servir un petit peu des réseaux. Allez-y, ou Florence Fedel sur Facebook. Ah, tu vois, je commence à être un peu moderne,
oui.
Lily. Hein.
Oui.
Merci Lily.
Cette semaine, l'info est sur tous les fronts.
Et les femmes au cœur de nos émissions.
Du 27 mars au 1er avril 2023,
retrouvez nos portraits de femmes sur Radio Cham.